Ce soir, pour introduire cette conférence, j'ai demandé à mon épouse de vous interpréter un cantique qui s'intitule « Il est venu ». Question, nous allons tenter de répondre à la question, y a-t-il une vérité absolue? Il n'y a pas si longtemps que ça, en Europe, on avait majoritairement une culture, on va dire, chrétienne, généralement de l'Église catholique romaine ou de l'Église réformée, et la question de la vérité ne se posait pas. Tout Européen, bien catéchisé, ayant une culture chrétienne, disait évidemment, il y a une vérité absolue, Jésus est la vérité. Et comment le savez-vous? Eh bien, on me l'a dit quand j'étais enfant, j'ai été confirmé, on me l'a enseigné, je n'ai aucune raison de le mettre en doute, Jésus est la vérité. Et ça s'arrêtait là. Mais avec les deux derniers siècles, on a rencontré des Asiatiques. On a rencontré sur le continent africain différentes manières de penser la spiritualité, l'animisme. On a rencontré le bouddhisme et d'autres religions et d'autres manières de voir le monde ont pénétré en Europe. Et puis surtout, les philosophes français sont arrivés, le cercle des Lumières. Et finalement, on a découvert, on a pensé en tout cas découvrir, que finalement, l'homme est la vérité. C'est ce que je crois. C'est ce qui me semble bon et juste. C'est ma raison qui me donne accès à la vérité. Et qu'est-ce que ça a engendré aujourd'hui? Eh bien, on dit la vérité, c'est la somme de toutes les vérités individuelles. Et finalement, On appelle ça maintenant, ce qu'on recherche aujourd'hui dans ce monde, c'est ce qu'on appelle la tolérance. La tolérance, normalement, ça veut dire je vous laisse croire ce que vous voulez sans vous persécuter. Je vous laisse, je ne vous fais pas de mal, je ne vous tue pas, je ne vous blesse pas, je ne vous persécute pas, je vous tolère, vous me tolérez. Chacun peut croire autre chose, on ne se fait pas la guerre. Mais le mot tolérance est en train de prendre un nouveau sens aujourd'hui. Le mot tolérance aujourd'hui pour beaucoup veut dire « Je vous dis que vous avez raison. Vous avez aussi la vérité. J'ai la vérité, vous avez la vérité. » Et si votre interlocuteur dit « Oui, mais on ne croit pas la même chose. » On lui réplique « Écoutez, c'est pas grave. La vérité avec un V majuscule, personne ne la détient entièrement. » Chacun a son petit bout de la vérité. Ce qui fait que votre bout de la vérité peut être contradictoire avec mon bout de la vérité, mais ce n'est pas grave, puisque la somme totale de tout ce que nous croyons, de tout ce dont nous sommes convaincus, c'est la vérité, puisque nous sommes nous-mêmes les garants de la vérité. Si on nous demande qu'est-ce que la vérité, on dit pour moi, la vérité, c'est voilà. Pour vous, la vérité, c'est le contraire. Vous avez votre vérité, j'ai la mienne. Vous avez raison, j'ai raison. Tout le monde a raison. Vous avez raison à condition d'être sincère dans ce que vous croyez. Alors, bien sûr, la question n'est pas de savoir si nous avons la liberté de croire ce que nous voulons. Bien entendu, même le Dieu créateur et souverain qui se révèle dans la Bible, c'est le premier à dire, vous pouvez croire ce que vous voulez. Dieu nous a donné un libre arbitre. Dans la Bible, c'est très clair. Et si certains emploient leur libre arbitre pour maudire Dieu et lever le poing vers Dieu, eh bien, ce Dieu, s'il existe, moi je crois qu'il existe, mais pour le débat, s'il existe, ce Dieu-là nous laisse libre de lever le poing contre lui. Dieu nous laisse libre de même de dire, je suis athée, pour moi, Dieu n'existe pas. Nous avons cette liberté de croire ce que nous voulons. Et en Europe, depuis quelques dizaines d'années, depuis un peu plus longtemps, mais pas depuis très longtemps, on a la liberté de croire ce que nous voulons croire et de dire ce que nous voulons dire sans craindre la persécution. Et c'est une richesse incroyable que d'avoir la liberté de conscience. Donc il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de dire « j'ai raison, vous avez tort ». Il ne s'agit pas non plus pour moi de vous dire « j'ai raison et vous avez raison », même si on ne croit pas les mêmes choses. Le sujet est beaucoup plus ciblé que ça. La question est de savoir, y a-t-il une vérité absolue? S'il y a une vérité absolue, alors il y a des petites vérités relatives. Par exemple, j'aime la choucroute. Ok, ça c'est une vérité qui s'applique à moi. Mais c'est une vérité pour moi, ce n'est pas forcément une vérité pour vous. Mais surtout, ce n'est pas une vérité absolue. C'est juste quelque chose qui me concerne à moi. Et nous avons tous nos petites vérités, les choses qui nous concernent, nos goûts et nos couleurs. Comme on dit, ça ne se discute pas, chacun est libre d'être... Mais est-ce qu'il y a par rapport à l'éternité, y a-t-il par rapport à l'infini? Y a-t-il par rapport à l'humanité, y a-t-il quelque part une vérité absolue qui est au-dessus de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut vivre et expérimenter? Y a-t-il, oui ou non, une vérité absolue? On va commencer, si vous le voulez bien, par un processus d'élimination. Pour chercher la vérité absolue, entrons dans notre imagination, bien sûr, dans l'univers. Quittons la planète Terre, partons à travers le système solaire, à travers la Voie lactée, dans les autres galaxies, en imagination, ça ne coûte pas cher et ça va vite. Hein? Et nous sommes aux confins de l'univers, nous regardons partout autour de nous, on dit où la quasi-totalité de cet espace est vide. Mais nous trouvons des boules de feu qui brillent et qui brûlent partout, des milliards d'étoiles on les voit ici comme des petits points, mais là-dehors, c'est des choses énormes, beaucoup plus grandes que le soleil, que la Terre, certains plus grandes que le système solaire, et ils brûlent, et on découvre, il y a de la matière, il y a de l'énergie. De la matière et de l'énergie à travers tout l'univers que nous pouvons apercevoir. Est-ce que cette matière et cette énergie, est-ce qu'elles constituent une vérité absolue pour nos vies? La réponse est non, du moins pas une vérité morale, puisque la matière et l'énergie, en tout cas pour ce que nous pouvons nous apercevoir, c'est la matière et l'énergie, c'est des éléments qui sont neutres, qui n'enseignent ni le bien ni le mal. C'est des gaz qui brûlent et qui éclairent l'univers. Nous arrivons sur la Terre. C'est un champ d'investigation plus petit. Que constatons-nous? Les éléments, bien entendu, les rochers, les plantes, les animaux et les hommes. On regarde dans les animaux et dans les plantes des animaux, des plantes qui nous enseigneraient la vérité absolue. Imaginez que la tomate commence à nous parler pour nous enseigner des vérités, ce serait quand même extraordinaire. On dirait, ben oui, si vous cultivez une tomate et elle vous parle, elle dit la vérité. Ce serait quelque chose d'incroyable, mais ce n'est pas le cas. Pareil que dans ces boules de feu qui jalonnent l'univers, parmi les plantes et parmi les animaux, on n'en trouve aucune qui nous enseigne des vérités absolues. Ça nous amène à l'homme. Alors les hommes, quand même, ils ont parlé, contrairement aux tomates, ils ont parlé, ils ont même beaucoup parlé, et des hommes remarquables. On pense à Platon, l'un des premiers philosophes des temps antiques. On pense aux philosophes français, comme Jean-Paul Sartre, Voltaire et d'autres qui ont parlé. Sartre qui a dit d'ailleurs, « Je sais que la vérité n'existe pas en moi. » Au moins, c'est clair. Il n'a pas prétendu enseigner la vérité absolue. On pense au Bouddha, qui a parlé de la voie droite, des chemins droits, de l'attitude droite, des actions droites. Et il a dit, je vous enseigne une certaine sagesse que j'ai reçue, mais je vous demande de continuer ma recherche. Bouddha enseignait tout sauf une vérité absolue. Il disait, j'ai des conseils à vous donner que j'ai glanés de mes méditations, mais c'est une manière de vivre, mais n'en faites pas une religion. Il y a Mahomet aussi qui a dit « Je suis le prophète d'Allah et je viens représenter le Dieu Allah ». Tous ces gens-là ont parlé et beaucoup d'entre eux ont dit des vérités. Il ne s'agit pas de dire « Platon n'a rien dit de vrai, Aristote non plus ». Tout ce monde-là a dit des vérités et des choses très utiles. Des choses qui peuvent nous servir aujourd'hui, dans la sagesse antique, dans la sagesse humaine. Même dans le livre des Proverbes, vous avez des proverbes qui existaient et dont on a des milliers, des paroles de sagesse. Des paroles de sagesse. Donc, il y a des gens qui ont dit des vérités, mais il y a un seul homme qui a prétendu être la vérité absolue. Je le répète, il y a un seul homme dans l'histoire du monde qui a prétendu être la vérité absolue. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Il a dit, « Je suis moi-même le chemin, la vérité et la vie. » Aucun autre homme, aucun chef religieux, aucun fondateur d'aucune religion n'a jamais prétendu être la vérité absolue. C'est quand même une chose à remarquer. Alors, on revient dans cet univers, on revient sur la planète Terre, on va dans nos cellules, on va dans les cellules de tout ce qui est vivant, on découvre une incroyable complexité. On regarde l'ADN, toutes ces combinaisons qui sont liées ensemble comme une énorme chaîne pour chaque cellule. Toute cette information qui est transmise et copiée, transmise à l'infini. Pour les cellules microscopiques, on trouve une complexité, on trouve un art consommé, on trouve une organisation incroyable et on s'aperçoit, ça c'est l'effet, c'est ce qui est. C'est comme si on voyait un magnifique tableau, on dirait, quel magnifique tableau. Et très rapidement, après avoir admiré le tableau, on dirait, je me demande qui l'a peint. Et quand on regarde l'univers, on ne peut pas échapper à cette question, je me demande quelle est la cause de cet univers. D'où vient cet univers? D'où vient cette complexité? D'où vient cette beauté et cette perfection? On regarde l'être humain. Avez-vous jamais pris le temps d'examiner la complexité de vos émotions? C'est extraordinaire. Nos émotions, on en a des centaines. Et on a parfois plusieurs émotions en même temps. Quelquefois, on ne sait plus, on les a tellement, on a des émotions qui viennent en nous, mais d'où viennent-elles? On ne les a pas inventées. On les expérimente, mais on n'a pas un jour dit, tiens, j'aurais envie d'être jaloux, mais je vais inventer une nouvelle émotion qui s'appelle la jalousie. Non, on est né avec la tendance, la possibilité d'être jaloux et bien d'autres choses. Quelle est la cause? Qui est-ce qui a conçu, qui est l'architecte de tout ce qui est à l'intérieur de nous, que nous appelons notre âme? D'où vient notre capacité à l'être humain d'être assis ici et parler de concepts qu'on ne peut pas toucher? Parler d'esprit, parler de haine, parler de pouvoir, parler de tentation, parler de des envies, des choses qu'on ne peut pas toucher, parler de vérité. D'où vient l'idée que quand on dit le mot vérité, tout le monde, tout de suite, a une idée de ce que ça veut dire. Alors qu'on ne peut pas le peindre dans un tableau, on ne l'a jamais vu. Tous ces concepts abstraits que nous jonglons, que nous utilisons tous les jours, sans réfléchir, d'où vient que nous avons ces capacités-là? Parce qu'on est né avec. Et si on dit, ben, nos prédécesseurs, nos ancêtres ne les avaient pas, mais ça s'est développé dans l'esprit humain par le hasard, par quel hasard toutes ces choses se sont-elles développées de la même manière chez tous les êtres humains? La question est là. Il y a des effets. Quelle en est la cause? Alors, si on veut chercher une cause à nous-mêmes, à cet univers, il n'y a vraiment que deux possibilités. Alors, une grande partie de la communauté scientifique dit, nous sommes des scientifiques, nous travaillons avec le monde naturel. Nous étudions le monde physique naturel. Alors, ce monde, nous voulons expliquer son origine par des causes naturelles. Et alors, bien sûr, les scientifiques s'enferment dans cette idée-là. Il faut expliquer tout par des causes naturelles. Eh bien, la seule explication possible, si c'est par des causes naturelles, c'est le hasard. Au début, il n'y aurait aucune cause intelligente, il n'y aurait donc aucun créateur. La seule chose qui reste, c'est des pouvoirs qui viennent d'on ne sait où, des forces cosmiques qui viennent d'on ne sait où, qui se mettent en branle, et le hasard fait que, boum, ça devient ce que c'est devenu. C'est la seule explication si on écarte l'idée d'un concepteur. Maintenant, regardons cet univers et l'être humain, il y a l'autre possibilité, l'autre théorème, l'autre alternative, c'est un créateur. Ce que nous voyons, ce que nous, dans quoi nous vivons nous-mêmes, nous sommes les œuvres d'un créateur. Alors, ça devient plus facile. Déjà, intellectuellement, ça devient plus facile à croire que j'ai été conçu par un créateur, du moins mes ancêtres, et je suis né d'eux, mais au départ, l'être humain a été conçu par un créateur. Et si il y a un créateur qui nous a fait, eh bien, il est tout puissant. C'est un grand mathématicien, c'est un grand architecte, c'est un grand psychologue, parce qu'il a su inventer à la fois les gaz, les lois de la combustion, les lois de la pesanteur, les lois de physique quantique, mettre tout ça en place, bien coordonné, et puis il a pu se pencher sur l'être humain et le doter de toutes sortes d'émotions, de toutes sortes d'idées abstraites. Il a pu lui donner un sens de sa destinée. Il a, voilà, en gros, il a pu équiper l'être humain d'une vie intérieure absolument infinie, et les cellules de l'être humain et de toutes les plantes et tous les animaux et tous les systèmes qui marchent ensemble, ce créateur doit être, s'il y a un créateur de tout ça, il doit être la vérité absolue. Voilà, nous arrivons un peu par processus d'élimination à cette idée, un créateur, s'il existe, s'il y a une cause première, intelligente, toute puissante, avec toute connaissance, qui a conçu et créé l'univers et l'être humain, il doit être la vérité absolue. Au moins pour cet univers. Si vous connaissez d'autres univers avec d'autres créateurs, alors évidemment, le créateur serait la vérité absolue pour cet univers-là. Mais on n'en est pas là, on est ici. Alors, parmi tous les livres religieux que les hommes ont écrits, la Bible est le seul livre à dire quelle est la vérité. C'est très curieux. On pourrait penser que Bouddha aurait commencé ses méditations en disant j'écris la vérité, il n'y a que la vérité dans ce que j'écris. Il s'est bien gardé de le faire parce qu'il ne le croyait pas. La Bible dit des dizaines de fois quelle est la vérité et qu'elle dit la vérité. Et le Dieu qui se présente dans cette Bible, parce qu'il y a un Dieu qui se présente et qui se dévoile depuis le début jusqu'à la fin du livre. Toujours le même Dieu. Et on le connaît un peu mieux à mesure que l'histoire progresse. Il montre plusieurs aspects de sa personne à mesure que les récits se succèdent. Mais il dit, lui, qu'il est le seul à dire la vérité et à être la vérité. On va regarder quelques passages. En Ésaïe 40, par exemple. Ésaïe 40, verset 8. C'est un verset tout court, deux phrases, mais elles sont puissantes. La Bible dit, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Voilà que la Bible, parce qu'elle parle d'elle-même, c'est Dieu qui dit, « Ma parole subsiste éternellement. » C'est intéressant, un livre écrit par un juif 600 ans avant Jésus-Christ, on pourrait penser que ce livre serait perdu. Vous savez, les gens ont écrit des centaines et des milliers de livres, de documents, 600 ans avant Jésus-Christ. Il n'y en a pas beaucoup qui nous sont parvenus aujourd'hui. Mais les livres qui figurent dans la Bible nous sont parfaitement parvenus et ont été parfaitement conservés à travers des milliers d'années d'histoire. Cette phrase-là date de 2600 ans en arrière. Aujourd'hui, nous avons des milliers de copies de l'original. On n'a pas les originaux, mais nous avons des milliers de copies. Certains disent, oui, des copies, ce n'est pas l'original. Vous ne savez pas si les copies ont été trafiquées. Bonne question. Est-ce que les copies ont été trafiquées? Le problème, c'est que quand vous avez beaucoup de copies, si quelqu'un ou si plusieurs veulent trafiquer les premières copies pour les modifier, il faut que tous ceux qui veulent falsifier se retrouvent ensemble. Il faut qu'ils réunissent toutes les copies existantes dans la même pièce. Et puis, il faut qu'ils les falsifient tous de la même manière. Et comme ça, toutes les copies en existant ayant été falsifiées en même temps, de la même manière, par les mêmes faussaires. Après, c'est bon, on peut copier à souhait et le document est falsifié. Le problème, c'est que c'était impossible de réunir toutes les copies dans une seule pièce et mettre un tas de faussaires dans la pièce qui veulent, eux, falsifier les documents de la même manière. Donc, le nombre de copies, le nombre de manuscrits et la distance géographique sur laquelle on a trouvé tous ces manuscrits datant de tous les siècles montre que les originaux et les copies n'ont pas pu être falsifiés. Parce qu'à 99,9%, elles sont identiques. Les copies sont identiques et ont traversé des siècles. C'est un phénomène totalement inconnu dans la préservation d'autres livres qu'antiques. La Bible antique, la Bible est totalement unique dans ce sens-là. Le livre d'Ésaïe que nous venons de citer a été particulièrement attaqué au 19e siècle par des gens qui voulaient prouver que la Bible avait été falsifiée. Ésaïe, d'ailleurs, contient tellement de prédictions accomplies par Jésus-Christ que des gens ont dit que ce n'est pas possible qu'Ésaïe ait pu écrire tellement de prédictions qui se soient accomplies à la lettre. Donc, ça prouve que quelqu'un a écrit après le fait, en se faisant passer pour Ésaïe qui aurait écrit avant le fait, pour faire croire aux gens que les prédictions avaient été données avant, en fait, c'était donné après. Cette théorie a continué pendant à peu près 150 ans, dans les églises protestantes notamment. Mais en 1947, on a trouvé les manuscrits de la Mer Morte. Et les manuscrits de la Mer Morte, qu'on a trouvés, les copies ont été certifiées par tous les archéologues comme datant d'au moins 150 à 200 ans avant Jésus-Christ. Et ces copies-là, quand on les a retrouvées et qu'on les a examinées, étaient identiques aux manuscrits précédents et suivants, montrant que le manuscrit datant du 15e siècle, la copie datant de 500 ou 600 ans, n'avait pas été falsifiée, que les manuscrits étaient intacts, le livre était intact 200 ans avant Jésus-Christ. Ce qui a détruit les attaques par rapport à l'historicité d'Ésaïe. Ça veut dire que ce livre d'Ésaïe, écrit 600 ans avant Jésus-Christ et contenant toutes ses prédictions sur Jésus-Christ, n'a pas été falsifié. Au contraire, il nous est parvenu intact. Alors, quel est le secret de cette préservation miraculeuse de ces livres bibliques? Voici la promesse de Dieu. Il dit, « Ma parole demeurera éternellement, elle est indestructible. » Nous voyons également dans les versets 13 à 14, il dit, « Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence ?» Dans ces deux versets d'Ésaïe 40, Ésaïe, parlant au nom de l'Éternel, dit, « Dieu, ce Dieu de la Bible, personne n'a jamais pu rien lui apprendre. Il sait tout depuis le début. » Ça s'appelle l'omniscience. Le Dieu de la Bible se présente comme quelqu'un qui a déjà toute connaissance. Personne n'a pu jamais rien lui apprendre. Il sait tout à l'avance. Nous lisons dans le verset 22 du même chapitre, verset 21. Il dit, « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. » Voilà. Le prophète Ésaïe nous dit, « N'avez-vous jamais pensé à la fondation de la terre? » Il dit, « C'est ce Dieu qui est assis au-dessus du cercle de la terre. » Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, Christophe Colomb, ça date de 500 ans en arrière, un peu plus, mais il vivait à une époque où la plupart des gens, y compris l'Église, pensaient que la Terre était plate. Et les amis de Christophe Colomb avaient très peur qu'il tombe de l'assiette et qu'il tombe dans le néant à un moment donné, mais lui, il était convaincu que la Terre était ronde. Et bien sûr, lui et quelques autres l'ont prouvé. Mais s'ils avaient pris le temps de lire la Bible, ils auraient su tout de suite. La Bible dit que la terre est une sphère. Comment Ésaïe pouvait-il le savoir 600 ans avant Jésus-Christ? Et même, ça a été dit dans les Proverbes, 1000 ans avant Jésus-Christ. Nous lisons dans les versets 25 et 26, toujours du même chapitre où ce Dieu se présente. Dieu dit, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Ce Dieu de la Bible se présente comme celui qui a tout créé dans l'univers, et les étoiles, et les planètes, et les galaxies. Et déjà 600 ans avant Jésus-Christ, il dit qu'il les fait marcher dans l'ordre. Et quand on pénètre tant soit peu dans l'univers, on découvre que toutes les galaxies, que toutes les étoiles, que toutes les constellations bougent sans arrêt, mais selon un certain ordre. Il y a une orbite, il y a un mouvement d'horloger là-haut. Tout se place parfaitement bien, tellement bien que les gens qui naviguent sur l'océan peuvent se repérer sans se tromper sur telle ou telle étoile pour se guider, pour trouver la latitude. Les points de repère sont infaillibles dans le ciel. Et donc, un Dieu qui peut créer et entretenir et faire évoluer toutes ces étoiles par sa propre force, évidemment, doit être tout-puissant et infiniment grand. Nous arrivons au chapitre 41, ce Dieu continue à se présenter. Et dans le verset 8, il parle d'un choix qu'il a fait, le choix d'un peuple. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas très bien pourquoi Dieu a choisi un peuple plutôt qu'un autre, ou pourquoi il a choisi un peuple plutôt que de continuer à s'adresser à tous les hommes de la terre d'une manière générale. Nous ne savons pas exactement pourquoi. Mais ce qui est clair dans la Bible, c'est qu'à un moment donné, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, Dieu a choisi Abraham, un Chaldéen, et a dit, je veux que tu quittes ton pays, ta patrie, et que tu ailles dans un pays que je te montrerai. Et Abraham, suivant l'ordre de l'Éternel, qui venait de se manifester à lui, il est parti dans un pèlerinage de 2000 kilomètres. Il est arrivé à Canaan, aujourd'hui Israël, près de la Méditerranée. Arrivé là, Dieu dit, voilà la terre que je vais te donner à toi et à ta postérité. Et puis Dieu lui a fait des promesses. Il dit, par exemple, par ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Ce qu'il voulait dire par là, et l'apôtre Paul l'explique très bien, la postérité d'Abraham, il y a un des descendants d'Abraham qui est un sujet de bénédiction pour toutes les familles de la terre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est un descendant direct d'Abraham. Alors, il s'intéresse à ce peuple d'Israël. Un peu plus tard, dans le Lévitique et le Nombre, Dieu dit à Israël, ne vous imaginez pas que je vous ai choisi parce que vous êtes un meilleur peuple que les autres. Il dit, vous êtes un peuple, en fait, rebelle. Vous êtes un peuple au cou raide. Vous êtes un peuple que je vais devoir souvent châtier. Je vous ai choisi non à cause de vos qualités, je vous ai choisi pour manifester ma fidélité. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, ce que Dieu voulait faire, c'est choisir un peuple et puis le conserver pendant tous les siècles et montrer ce qu'il pouvait faire, combien il pouvait être fidèle à un peuple qui ne le méritait pas. Voilà ce qu'il voulait faire. Il voulait aussi que son peuple parle de lui aux autres. Il voulait être connu comme le Dieu d'un certain peuple, mais qui s'adresse à tous les autres peuples en disant, venez à moi. Si, par exemple, un jeune homme, il dit, je suis rempli de fidélité, je suis rempli de qualité. J'ai un amour immense qui est dans mon cœur. Savez-vous comment il peut faire pour montrer toutes ses qualités? Il peut se marier et avec son épouse, il peut se montrer un mari fidèle, attentionné, un mari plein de compassion, plein de tendresse. S'il dit, j'ai des trésors de paternité dans mon âme, Je voudrais être père, je pourrais être un père vraiment merveilleux. La meilleure chose qu'il ait à faire, c'est d'avoir quelques enfants et de montrer à tout son quartier, à toutes ses connaissances, à quel point c'est un bon père. Mais dire, j'ai des trésors d'amour, de tendresse et j'ai un désir de paternité, puis rester célibataire, personne ne pourra jamais le voir. Voyez. Alors c'est aussi pour cette raison-là que Dieu a choisi un peuple. Il a voulu montrer à quel point il pouvait être fidèle, à quel point il tiendrait ses promesses, à quel point il préserverait un peuple malgré toutes les vicissitudes et tous les dangers. Il voulait montrer un Dieu fidèle à une alliance. Alors il a créé une alliance avec le peuple d'Israël, et puis il est resté fidèle à ses alliances, afin que tous les autres peuples qui regardent ce Dieu et ce peuple et leur interaction puissent voir les qualités de ce Dieu. C'est pour cela qu'il a choisi le peuple d'Israël. Alors ce peuple, il lui a donné une identité nationale, Israël, le nom du peuple, le peuple d'Israël, par Abraham, Isaac, Jacob et ses 12 fils. Il leur a donné un pays. C'est le pays qu'on appelle aujourd'hui le pays d'Israël. Ce pays, quand il a donné à Abraham 2000 ans avant Jésus-Christ, mais le peuple n'est jamais venu habiter dans ce pays jusqu'à 400 ans après. 4 siècles plus tard, sous Moïse, Dieu amène ce peuple pour finalement entrer dans le pays qu'il avait promis à Abraham et vivre dans ce pays sous Josué. Déjà rien que là, ce Dieu qui fait une promesse à Abraham en l'an 2000 avant Jésus-Christ, et puis qui fait réaliser sa prédiction 500 ans plus tard, veut montrer par là, j'étais là en l'an 2000 avant Christ, je suis là en 1500 avant Christ, et je n'ai pas oublié la promesse que j'ai faite il y a 5 siècles, et j'accomplis cette promesse maintenant. Alors il leur a dit, ce pays, vous y vivrez, vous en bénéficierez, vous en jouirez tant que vous me restez fidèle. Si vous ne me restez pas fidèle, le pays vous appartient toujours, mais je ne vous permettrai pas d'y vivre, je vous en chasserai, je vous enverrai en exil ailleurs. Et si vous vous repentez, je vous ramènerai, et de toute façon, je finirai par vous ramener dans cette terre que je vous ai promise. Il a annoncé ça dès le départ. Il leur a dit, si vous me désobéissez, j'enverrai des sécheresses, j'enverrai toutes sortes de problèmes agricoles, et si ça continue, j'enverrai une armée qui vous envahira, qui détruira pas mal des habitants, qui détruira vos villes et qui vous amènera loin en captivité dans des pays étrangers. C'est arrivé à plusieurs reprises. Au bout de 300 ans, à peu près 400 ans de vie dans la terre d'Israël, c'est-à-dire ils sont entrés en 1400, ils ont eu pas mal de problèmes, ils sont restés jusqu'à à peu près 600, 800 ans dans leur pays. Et alors leur idolâtrie et leur péché, leur injustice sociale est arrivée à tel point que Dieu les a chassés de leur pays, les a mis en captivité à Babylone. Mais avant de les amener en captivité à Babylone, il leur a dit, vous serez en captivité à Babylone pendant 70 ans, et au bout de ces 70 ans, je vais susciter un roi qui s'appellera Cyrus. Ils ont été amenés en captivité par les Babyloniens, et il a dit, dans 70 ans, ça ne sera plus les Babyloniens qui vont diriger le monde, ça sera les Mèdes et les Perses, et un roi perse va donner un édit pour vous ramener dans votre pays. Et effectivement, 70 ans plus tard, le fameux Cyrus est arrivé sur le trône, et la première loi qu'il a faite, c'est dire, vous pouvez rentrer, vous les Israélites, rentrer dans votre terre ancestrale, vous pouvez retourner chez vous. Ça, c'était une chose qui ne s'est jamais produite avant. D'abord, la plupart des peuples, si vous les dispersez, si vous les amenez en exil pendant 70 ou 80 ans, au bout de 3 générations, les gens oublient d'où ils sont venus, ils sont mariés avec les gens du pays, et le sentiment identitaire national se perd. Mais dans le cas du peuple d'Israël, cette identité, cette réalisation, on est juif, ne s'est jamais perdue. Et ça dure depuis donc 4000 ans, depuis le temps d'Abraham. Alors 42 000 sont revenus. Ils ont vécu là à peu près 5 siècles. Jésus-Christ est venu, la plupart des Juifs l'ont rejeté, et le Seigneur a dit, vous me rejetez, vous aurez de nouveau une dispersion aux quatre coins de la terre cette fois-ci. Et c'est arrivé en l'an 70 du premier siècle. Mais Dieu avait déjà dit, Je vous disperserai aux quatre coins du monde, mais un jour, je vous ramènerai dans votre pays. » Il leur a même dit par ce même prophète Isaïe, « Le jour viendra quand votre pays renaîtra en un jour. » Une chose invraisemblable, un pays ne naît jamais en un jour. Mais l'État d'Israël est rené officiellement sur le territoire d'Israël par vote de l'ONU en 1948. Donc en un jour, ce qui était un foyer pour les Juifs officieux est devenu un État national aux frontières reconnues et reconnues par l'ONU en un seul jour. Des prédictions que tu as faites. Alors ça nous amène à cette autre question, les prédictions. En Ésaïe 43, on reste toujours un peu dans les mêmes textes, mais c'est Dieu qui se présente assez longuement ici. Il dit, verset 10 de Ésaïe 43, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera ? » Et donc, dans ce texte, Dieu dit, j'annonce des choses, je les prédis, je les amène à leur accomplissement. Pour faire une prédiction sur plusieurs siècles et la faire réaliser détail par détail, il faut d'abord être tout puissant. Il faut pouvoir savoir quel est l'avenir. Il faut pouvoir orchestrer les événements et les gens qui ne sont pas encore nés. Il faut pouvoir les orchestrer et les diriger pour que votre prédiction s'accomplisse. Il faut donc pouvoir être éternel, être là avant le début, être là après la fin de l'événement que vous avez prédit. Il faut avoir de la mémoire. Il faut se souvenir de ce qu'on a promis et il faut réaliser tous les détails que l'on a promis au moment fixe. Il faut être souverain, il faut pouvoir contrôler la situation pour pouvoir accomplir la prédiction qui a été faite. Pourquoi Dieu a-t-il donné dans la Bible des centaines de prédictions qui se sont accomplies? Précisément pour nous montrer qu'il est éternel, qu'il est tout-puissant, qu'il sait toutes choses, qu'il peut tout contrôler, qu'il est le seul Dieu qui existe, il est la vérité absolue. C'est pour cela qu'il a fait des prédictions. Dans le chapitre 44, et nous terminons cette partie sur Dieu qu'on appelle le Père ou l'Éternel, nous lisons ces versets. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. » Voilà ce qu'il dit. « Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles témoignent d'elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. » Alors Dieu, ce Dieu qui se présente à nous dans ces pages, qui dit « Je suis le seul Dieu qui existe », il prend le temps de lui mettre en garde contre les idoles. À l'époque, l'idolâtrie s'était très répandue, mais aujourd'hui encore. Parfois, ce n'est plus un buste d'enceinte qu'on adore, mais peut-être une voiture de sport. Ou c'est peut-être un certain standing social. Mais quand on regarde un objet et on dit, dans cet objet, je trouve ma suprême satisfaction. Quand on regarde un objet et on dit, je suis dans le malheur, mais je vais prier cet objet et j'espère qu'il me répondra. Quand on attache, quand on attribue un certain pouvoir à un objet, ça s'appelle du fétichisme. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Et Dieu dit, attendez, quand vous fabriquez une idole, vous les hommes, vous fabriquez vous-même l'objet. Vous êtes bien placé pour savoir qu'il soit de bois, de pierre, d'or ou d'argent. Vous savez que c'est un objet matériel, puisque vous l'avez vous-même fabriqué. Cet objet matériel que vous avez fabriqué, par quelle idée imaginez-vous que cet objet matériel devient votre divinité? Il dit, c'est vous qui êtes le dieu de l'idole, c'est pas l'idole qui est votre dieu, en quelque sorte. C'est vous le concepteur, c'est pas cette idole qui vous a créé. Comment pouvez-vous créer une statue et tomber devant et prier la statue que vous devez créer? Il a dit, ça n'a aucun sens. Et surtout, il dit, pendant que vous êtes en train de vous occuper de votre idole, vous me tournez le dos, moi qui suis votre créateur, moi qui vous aime, moi qui veux une relation avec vous, moi qui peux répondre à vos besoins, ça me fait de la peine. Et même ça met Dieu en colère, dans une sainte indignation de voir les gens qui suivent des objets de néant qui ne peuvent pas leur apporter ce dont ils ont besoin et ce que lui peut leur apporter. On peut imaginer, vous êtes parent, vous avez un enfant de 15 ou 16 ans qui découvre le cannabis ou une autre drogue, qui ferme sa porte et qui dit « Papa, maman, c'est pas la peine que vous me parliez, vous n'avez jamais pu répondre à mes besoins. Dans ce joint, je trouve ma consolation. Dans ce joint, je trouve ma sagesse. Dans cette drogue, je trouve ma satisfaction. » Laissez-moi tranquille, vous avez échoué et là j'ai trouvé la vraie solution. Quel parent ne serait à la fois en colère et extraordinairement peiné et désespéré de voir son enfant lui tenir en langage? Il lui dirait, mon enfant, c'est un objet. C'est un objet qui se consume par le feu. Cet objet te donne des couleurs, des rêves. Des images qui sont certes magnifiques, mais tout ça est imaginaire. Mais ce n'est pas le plus grave. Tu vas devenir habitué et ton corps va réclamer ce poison et ce poison va vous détruire. Tandis que moi, ta maman et moi, nous t'avons mis au monde. Nous t'aimons. Nous pouvons te conseiller. Nous avons ton intérêt à cœur. Nous voulons te voir grandir et devenir un adulte responsable, fonder un foyer, réaliser ton dessein, et puis exercer tes talents et être tout ce que tu peux être. On ne vit que pour ça. Et tu nous tournes le dos pour te remplir d'un poison qui va te tuer. On peut comprendre l'indignation de l'Éternel quand les gens se tournent vers des idoles, surtout lui qui les a créés avec la capacité de comprendre ces choses et les voir se perdre dans des voies de néant. Alors, pour résumer, et les deux autres parties sont beaucoup plus courtes parce que ça, la base est fixée, celui que la Bible appelle l'Éternel, Yahvé, Elohim, je suis celui qui suis, ce Dieu-là, cette divinité-là, ce personnage-là, qui est dans la Bible, se présente comme la vérité absolue. Donc, si Dieu le Père dit « Je suis la vérité absolue », il n'est pas le seul. Il y a un autre qui vient et dit « Moi aussi, je suis la vérité absolue ». Et on vous dit, ah, ça ne va pas. Alors ça se gâte parce qu'il y en a un qui est la vérité absolue. J'aurais envie de vous croire. Maintenant, vous dites qu'il y en a un autre dans le même livre. Ça ne peut pas aller. Et bien, justement, ça va très bien. Parce que celui qui vient, qui dit qu'il est la vérité absolue, il se présente comme Dieu le Fils. Alors, Jean chapitre 14, on découvre un deuxième personnage qui se dit être la vérité absolue. Alors, dans Jean 14, c'est Jésus-Christ, bien entendu, dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, d'accord, et croyez en moi. Ok, croyez en Dieu et croyez en moi. Bon, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors voilà que Jésus-Christ, il dit, je vais vous préparer une demeure dans un autre monde que celui-ci. Ça fait réfléchir déjà. Je vais vous faire une jolie maison de retraite dans le village d'à côté, ça on peut le comprendre. Mais il dit, je m'en vais dans un autre monde, vous créez une demeure, je viens vous chercher, je vous amène avec moi et on va vivre dans cet autre monde. Alors, les disciples sont un peu sur les dents. Hein. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors, ça s'éclaire un peu. Jésus ne vient pas comme une deuxième vérité absolue. Il dit, je viens pour vous montrer le Père est en moi. Donc ce Dieu qui est invisible dans le prophète Ésaïe décide de se rendre visible en devenant un être humain. On appelle l'incarnation. Par la Vierge Marie, Dieu devient un homme. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et Jésus dit, je suis dirigé, habité, contrôlé, conduit par le Père. Et quand les disciples disent, on veut aussi voir le Père, on te voit toi le Fils, on veut voir le Père, il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait, écoutez, je vois bien votre corps, ok, ça je vois votre corps, mais montrez-moi votre âme maintenant. Vous serez bien embêté. Mais je ne peux pas vous la montrer. Je peux vous mettre en colère, si vous voulez voir ma colère. Je peux vous montrer des aspects de mon âme ou je peux vous montrer de l'amour, si vous aimez. Mais cette émotion va transparaître par mon corps. Vous verrez mon corps dans différentes manières, différentes expressions sur mon visage. Ça va traduire mes émotions, mais je ne peux pas vous montrer mon âme en dehors de mon corps. Mon âme est dans mon corps. Mon âme, c'est moi et je m'exprime par mon corps. Et c'est un peu ce que Jésus disait ici, le Père, il est en moi, il me dirige, et les œuvres, les miracles que je fais, le Père les fait à travers moi. Donc, comme le Père a dit, je suis la vérité absolue, le Fils dit, le Père habite en moi, je suis aussi la vérité absolue, je suis la vérité et la vie. Et il dit une chose de plus qui est très importante, la seule manière dont je vais accéder à mon Père, qui est la vérité absolue, c'est de passer par moi. Je suis la voie d'accès à mon Père. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence de mon Père à moins de passer par moi. Alors, il décrit son identité. Dans Jean chapitre 5, il donne pas mal d'indices. Je vous les dirai rapidement. Premièrement, dans les versets 17 et 18, il dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Quand il dit « Dieu est mon propre Père », les Juifs ont dit « Alors si Dieu est ton propre Père, c'est que toi, tu te prends pour Dieu. Tu n'es pas simplement un homme. Parce que Dieu, s'il a son propre Fils ne peut pas juste être un homme. Si vous êtes un être humain, et si vous êtes en couple et que vous avez un enfant, votre être humain, votre enfant sera un être humain à part entière authentique de vous. Ça ne sera pas un chien. Ça sera un être humain. Parce qu'il est né de vous. Et si, les Juifs ont bien compris, si Jésus dit que Dieu est son propre Père, c'est qu'il dit qu'il est Dieu et qu'il est l'égal de Dieu. Et on voulait le lapider. Mais c'est bien ce que Jésus voulait dire. Je suis Dieu parce que Dieu est mon propre Père. On a la même essence. Dieu le Père, Dieu le Fils. Il fait tout ce que fait le Père, dit verset 9. Verset 26. Il dit, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Jésus-Christ dit, j'ai la vie en moi-même. Ça veut dire, je n'ai pas reçu la vie. Vous et moi, on a reçu la vie de nos parents, d'accord ? On a la vie, mais on est incapable de retenir cette vie dans notre corps. Un jour, le mort viendra, on sera bien obligé de rendre notre vie. Mais Jésus, il est propriétaire de sa vie. On ne peut pas le tuer. Même quand il était sur la croix, on ne pouvait pas le tuer. Il a rendu son esprit à son Père. Et puis, il a repris sa vie 3 jours plus tard. Il dit, la vie, je l'ai, c'est ma possession. Et je peux donner la vie à qui je veux. Je peux donner la vie éternelle à qui je veux. Je suis Dieu. Et il dit un peu plus loin, il dit, je vais ressusciter les morts. Il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus dit, je vais ressusciter tous les hommes. Tous vont y passer. Ceux qui ont cru en moi, je les ressusciterai pour la vie éternelle. Ceux qui m'ont refusé, je les ressusciterai pour la ruine éternelle. Mais il n'y a personne qui va rester mort. Je vais tous les ressusciter par ma puissance. C'est lui qui va juger les hommes, lui et lui seul. Dans le verset 24, mon verset préféré, il dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. » Et ne vient point dans le jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il y a beaucoup de témoignages. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, en parlant de Jésus-Christ, qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ a le pouvoir d'enlever le péché du monde, d'enlever et d'effacer le péché de nos cœurs. Il en a le pouvoir. Jésus a fait des miracles, des dizaines de miracles. Il a montré qu'il était tout-puissant et souverain sur toutes choses. Il a montré qu'il pouvait tout faire avec le corps humain. Il a guéri des aveugles, des gens atteints de toutes sortes de maladies congénitales, des sourds-muets, des paralytiques. Il a ressuscité plusieurs personnes des morts. Il n'a jamais eu aucun échec. Il n'y a jamais eu une seconde de retard dans ses miracles. Dès qu'il faisait le miracle, la personne était guérie totalement, définitivement et instantanément. Un record parfait sur tous les miracles du corps humain. Il avait tout pouvoir sur les éléments de la nature. Il a pu calmer les eaux sur la mer de Galilée par une simple parole. Il a changé l'eau en vin. C'était son premier miracle. Il a multiplié des pains en casse-croûte d'un garçon, a nourri entre 15 et 20 000 hommes. J'ai calculé, si chacun avait 200 grammes, ce n'est pas trop hein, pour un casse-croûte, ça fait quand même 3 tonnes de nourriture à partir d'un casse-croûte qui devait faire dans les 150 grammes, juste multiplié à l'infini par la puissance de Jésus-Christ. Il a fait venir des poissons dans un filet, là où il n'y avait pas de poissons, à l'origine, dans la mer. À une reprise, il a dit à Pierre, tu descends dans le lac, tu jettes une ligne, tu vas attraper un poisson, et dans la bouche de ce poisson, il y aura une pièce qui va payer l'impôt pour toi et pour moi. Pierre est descendu, il a trouvé le poisson. Heureux hasard, non. Il avait la capacité d'amener le poisson vers l'hameçon de Pierre et de mettre la pièce dans la bouche du poisson tout en restant là avec la foule enseignée. Il a montré un pouvoir sur toutes choses. Il a montré un pouvoir total sur les démons, sur les esprits. Un jour, un monsieur contrôlé par un démon a dit « Nous sommes légion ». Les démons ont dit « Nous sommes 1000 démons dans cet homme ». Jésus les a tous chassés sans aucun problème. Chaque fois qu'il allait quelque part, il y avait des démons, des gens possédés de ces démons se couraient et se prosternaient devant Jésus-Christ en disant « Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu ». Même les démons ne pouvaient pas s'empêcher de venir rendre hommage à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les chassait toujours et libérait les hommes qu'ils étaient venus posséder. Il avait tout pouvoir sur son corps, sur le monde de la transfiguration. Tout à coup, son corps a commencé à briller comme le soleil. Et Moïse et Élie sont venus à ses côtés et ils parlaient avec eux. Et Pierre, Jacques et Jean étaient stupéfaits. Et Pierre a dit, mais ce serait bien de rester ici quelque temps. On va dresser 3 tentes pour vous 3. On va rester sur la montagne. Et puis après, la lumière est partie et Jésus dit, non, ne dites à personne ce que vous avez vu. Mais il leur a montré sa gloire pendant un instant. Quand les gens avaient des pensées, ils savaient lire dans leurs pensées. Plusieurs fois, pendant qu'il enseignait, il disait, vous êtes en train de penser ceci et cela. Alors les gens, comment sait-il ce que nous pensons? Mais ils savaient ce que pensaient les gens. Il a donc montré son pouvoir total sur tous les aspects de l'univers, de l'homme, de tout. Quand il a été baptisé, et encore juste avant de mourir, une voix est venue du ciel où le Père a dit, « Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Dans les Écritures, nous trouvons en Michée chapitre 5, verset 1, il dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, ville de naissance de Jésus, toi, la petite ville entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les origines remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Voilà une prédiction qui est paradoxale. Comment un enfant peut-il naître dans un petit village et être à la fois un bébé et d'une origine éternelle? C'est pourtant la prédiction qui est faite. Donc, toute la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament témoignent que Jésus-Christ est la vérité absolue, au même titre que Dieu le Père. Nous terminons avec 3 versets en Jean 16, 13 à 15. C'est Jésus qui parle à ses disciples et dit, « Il y a quelqu'un d'autre qui est la vérité absolue. » Alors, ça fait beaucoup de monde maintenant. Hein? « Quelqu'un d'autre qui est la vérité absolue. » Et il parle à ses disciples, il dit, « Je vais bientôt vous quitter, mais ne vous en faites pas. » Il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. » C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Regardez bien que Jésus a pris soin devant ses disciples de faire le lien entre ces 3 personnes divines, leur lien entre elles. Il dit, le Père, vérité absolue, tout ce qu'il a est à moi, nous partageons tout. Donc, ce qu'a le Père est à moi. L'Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, de cette manière-là, Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils, Dieu en chair, et Dieu en chair, Jésus-Christ, remontant auprès de son Père, a envoyé à son tour l'Esprit Saint. Et les 3 sont qualifiés de vérité absolue. L'Esprit de vérité. Alors, l'Esprit Saint apparaît déjà dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, comme Jésus-Christ apparaît dans l'Ancien Testament. Les 3 personnes, à travers toute la Bible, paraissent comme le seul Dieu unique, concepteur, créateur de l'univers et la vérité absolue. Donc, pour répondre à la question, si vous voulez construire une maison et vous dites « j'aimerais que ce soit une maison qui fait 15 mètres sur 10 mètres » et votre architecte vient en disant « eh bien voilà, moi je viens d'inventer un nouveau mètre ». Il vous montre un mètre, vous prenez votre mètre et son mètre à lui ne fait que 35 cm. Si vous ne vous mesurez pas avec son mètre pour voir ce qu'est son mètre, vous allez trouver une maison qui fera 5 mètres sur 5. Parce que quand il dit mètre, il ne parle pas de la même, de la même distance que vous. Tout ça pour dire que nous avons besoin d'un point de référence qui soit le même pour tous. Quand quelqu'un dit « moi, ma vérité est ceci » et l'autre dit « ma vérité est le contraire », on peut dire que ce sont des opinions, et chacun a droit à ses opinions. Mais quand on parle de vérité, on parle de quelque chose d'absolu. Une vérité qui est vraie pour tout le monde, que les gens le reconnaissent ou pas, c'est la vérité. Et eh bien, je vous propose, sur la base de la parole de Dieu, que ce livre dit être la vérité absolue, qui présente en Dieu le Père, qui dit « je suis le seul Dieu vrai », lequel Père présente un Fils qui dit « je suis moi-même la vérité », lequel Fils présente un Esprit Saint qui dit « il vous conduira dans toute la vérité, il s'appelle l'Esprit de vérité ». Si vous êtes assoiffé de vérité, vous pouvez vous approcher de la Bible et demander à ce Dieu qui s'est présenté dans la Bible en toute honnêteté, si tu es le Dieu de vérité, montre-le-moi, convainc-moi, instruis-moi. Et en ouvrant la Bible, dans cette attitude, vous découvrirez la vérité qui transformera votre vie. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prions Dieu. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour ces instants. Nous te remercions pour le soin que tu as pris pour nous prouver que tu es la vérité. Nous te remercions pour le récit sobre, le récit historique de l'homme, de sa création, de sa chute, de sa rédemption. Nous te remercions de t'être présenté à nous. Nous sommes particulièrement sensibles au fait que tu as dit « je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Seigneur, si tu veux nous montrer que tu es la vérité, c'est parce que tu veux nous délivrer de l'erreur. Tu veux nous délivrer de notre péché. Tu veux nous délivrer de l'enfer. Tu veux que nous vivions en communion avec toi, réconciliés avec toi. Et nous sommes particulièrement sensibles au fait que tu nous laisses en libre arbitre. Tu respectes notre pouvoir de décision, toi qui nous l'as donné. Eh bien, tu nous appelles avec amour, avec compassion, à nous tourner vers toi. S'il y avait quelqu'un ce soir, vous dites, écoutez, moi, je crois vraiment ça. Je crois que la vérité absolue, c'est le Dieu de la Bible, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous dites, j'ai compris que ce Dieu-là m'aime, et qu'il veut que je sois réconcilié avec lui. Et je voudrais faire la paix avec Dieu. Si tel est votre désir, je vous invite à prier dans le silence de votre cœur la même prière que je vais faire maintenant de votre part. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je ne suis pas digne de toi, car je suis un pécheur. Et je sais que dans ta sainteté, tu ne pourrais jamais me recevoir comme je suis. Mais j'ai appris et je crois que Jésus-Christ, ton Fils, est mort pour moi sur la croix. Que sur cette croix, il a payé pour mes péchés entièrement. Et que par cette mort et cette résurrection, il m'offre le pardon, la réconciliation et la vie éternelle. Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Aussi, je te demande d'entrer dans mon cœur, de me sauver, de me pardonner tous mes péchés, de me donner la vie éternelle selon ta promesse et de m'adopter dans ta famille comme tu l'as promis. Je ne me base pas, Seigneur, sur moi-même. Je ne compte pas sur une religion. Je compte uniquement sur le fait que tu as payé pour mes péchés sur la croix. Et je me donne tout entièrement à toi pour vivre dans ta volonté, pour mieux te connaître et marcher dans la dépendance de toi. Maintenant, Seigneur, je voudrais te remercier de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir reçu dans ta famille. Merci de venir vivre en moi par ton Esprit Saint. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Je peux vous dire une très bonne nouvelle si vous n'étiez pas encore sauvé. Mais si vous avez le désir de le recevoir cet après-midi, et si vous avez prié avec moi sincèrement, la Bible est claire. Jésus est entré dans votre cœur par la foi et vous êtes devenu un enfant de Dieu parce que vous avez reçu le don de Dieu. Et si tel est le cas, vous allez voir un changement dans votre vie, un changement dans votre manière de vivre, un changement dans vos attitudes, dans vos appétits, dans vos priorités, parce que Christ va faire un changement en vous. Vous le verrez vous-même, Dieu va agir dans votre vie et on s'en réjouit avec vous. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, on voudrait se réjouir avec vous aussi. Et que Dieu vous bénisse, et demain matin, nous aurons un culte ici.